Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h01 sur RMC, on est là, on est bien, la deuxième heure de Roten sans flamme, elle commence maintenant. Et oui, on est encore là, une heure, on va se régaler, on va parler de Lyon, il y aura le quiz, des gâteaux à vous faire gagner. Ça va être une belle deuxième heure avec Louise Anessi, avec Christophe Dugarry et avec Jean-Louis Tour. Et puis si vous avez raté la première heure, on vous le dit tous les jours, je pense que c'est intéressant de la refaire en podcast. Ne la ratez pas. C'était passionnant, animé, passionnant.
Ouais, exactement. Et dans cette deuxième heure, Moumbagna, est-ce que selon vous, c'est le nouveau Brandao? C'est-à-dire qu'il peut aider l'équipe, pourquoi pas gagner des titres et vraiment faire profiter de son travail à tout le monde, ouais. Ou le nouveau Mitroglou? Dernier flop en date. On aurait pu mettre le nouveau Vitinha aussi.
Brandao, il a fait gagner des matchs européens.
Quand même, voilà. Donc voilà, selon vous, Moumbagna, sur ce que vous voyez, nouveau Brandao, nouveau Mitroglou, 32-16. On reviendra comme ça sur son retournée incroyable à Toulouse hier. Donc 32-16. À 19h45, le quiz, avec à gagner cette semaine de nouveau une semaine dans une résidence Lagrange Vacances. Pour vous inscrire, vous envoyez top au 732-16. Top au 732-16. Et puis je vous rappelle qu'on a donc des places pour PSG Lyon dimanche. 16h, c'est une demi-finale retour de Ligue des Champions féminines. Pour vous inscrire, vous appelez au 32-16 et si vous arrivez à temps et qu'il nous reste des places, elles sont pour vous. Tout de suite, on le sait, à Lyon, Jérôme, tu as un nouvel ami.
Ton ami, c'est moi.
Là, j'entendais le discours de Pierre Sage. Il se fout de la gueule du monde.
Je suis ton ami.
Allez. Mais filez-lui la boîte de Durançon à Pierre Sage, là, parce que l'énergie, il en a plus, lui. Hein.
Rappelle-toi ce que ton vieux pote disait.
Non, puis il doit avoir beaucoup d'expérience pour jouer tous les trois jours comme ça. Pierre Sage,
tu peux dire
ce qu'il a fait avant, là.
Ton ami, c'est moi.
Oh, la priorité, c'est le maintien. Mais tu marques les esprits, tu marques l'histoire d'un club. Comment, Pierre Sage? Gagnant des matchs, en gagnant des compétitions.
Je suis ton ami.
C'est scandale. Prends-le la tête comme du lac.
Merci, Roland.
On peut dire que c'est Roland qui parle, c'est pas du gars.
Il avait dit ça à propos de qui, Roland?
Ah, on peut pas dire, malheureusement, c'était off.
Ah, d'accord. Ouais.
Voilà.
Ah,
d'accord, okay. Je savais pas qu'il était à l'antenne. Mais bon.
D'accord.
Bon, si je donne un indice, on refait tout le podcast de la première heure.
Non, c'est bon.
On parlait de la personne
pour aujourd'hui. C'est bon.
Voilà.
C'est bon.
Allez. Alors, Pierre Sage. Clairement, il s'est pris les pieds dans le tapis. Hein. Il n'y a pas de doute. Hier, défaite donc lourde pour Lyon, 4-1 au Parc. La compo de départ avec ses 4 joueurs offensifs, le duo Kakré-Matic donc a explosé complètement. Match qui s'est équilibré à la mi-temps hein, avec son réajustement tactique. Pierre Sage, qui avait donné une très bonne interview à nos confrères de l'équipe dans le week-end. Même. Passionnante sur la façon dont il détaille ses idées de jeu, son style,
comment il est arrivé là aussi.
Comment il est arrivé là exactement.
L'entente avec Textor.
Exactement. Mais bon, est-ce qu'il n'y a pas parfois un trop grand écart entre son beau discours et ce qui se passe sur le terrain? C'est le débat. 32-16, appelez-nous pour débattre. Est-ce qu'il y a eu quelques limites vues hier, Jérôme?
Des limites, il y en a à Lyon. Après, attention, je minimise pas ce qu'il a fait de bien en termes de résultats depuis le début, que ça soit des victoires à l'arraché ou pas, peu importe, elles ont mérite d'être là et contre des adversaires par moments qui étaient plus forts que l'Olympique Lyonnais, il a réussi à les renverser à l'image de leur victoire à Monaco. Et j'étais sur place à l'époque, c'était au mois de décembre, Monaco-Lyon, où ils avaient gagné contre le cours du jeu, mais au moins ils avaient le mérite d'avoir battu une équipe qui va certainement faire la Ligue des Champions l'année prochaine. Mais une fois que tu as dit ça, je suis d'accord sur son analyse aussi d'après match quand il dit le plan, vous pouvez me parler du plan de jeu, que je me suis trompé ou pas trompé, mais quand on prend deux buts en 6 minutes dont un sur coup de pied arrêté, tu es mené 2-0 au bout de 6 minutes, c'est vrai que c'est compliqué de parler de plan de jeu derrière parce que psychologiquement, il y a une approche qui est complètement différente. Autant tu as une équipe qui est la tête sous l'eau, c'est l'Olympique Lyonnais et il te faut quelques minutes pour reprendre le dessus et puis t'as une équipe euphorique en face avec un Parc des Princes qui était chaud bouillant hier, donc compliqué de reprendre la stratégie de Pierre Sage du début de match. Mais une fois que t'as dit ça, moi, ce que je reproche à Pierre Sage, et bien sûr qu'il parle bien de foot, j'ai adoré, comme tu l'as dit, son interview dans l'équipe, c'est son analyse d'hier parce qu'il veut pas reconnaître qu'il s'est trompé sur la première mi-temps. Oui, il s'est trompé parce que quand tu viens au Parc des Princes, et pourtant, il analyse les matchs, il les voit les matchs, quand tu viens au Parc des Princes pour avoir le ballon, Bah déjà, il y a aucune équipe, même quand le PSG a été mauvais, aucune équipe qui a réussi à avoir la possession de balle contre le Paris Saint-Germain. Donc c'est, je regardais les statistiques, le PSG c'est la troisième meilleure équipe en termes de possession en Europe. Donc c'est compliqué. En plus, au Parc des Princes, de rivaliser là-dessus et même de les battre. Donc déjà, ça c'est la, pour moi la première erreur. La deuxième erreur, c'est de miser sur un pressing tout terrain, haut sur le terrain, pour contrer le PSG à la perte de la balle, ouais. Alors qu'on sait très bien que la stratégie du PSG, et c'est là qu'ils ont le meilleur, ils l'ont montré, c'est les transitions extrêmement rapides qu'ils peuvent mettre en place. Et on l'a vu sur la première mi-temps, où là il y a eu des fusées dans tous les sens. Et encore, où il est sauvé, c'est qu'il n'y avait pas Dembélé et Mbappé sur le terrain. Parce que si les deux sont là, peut-être qu'au lieu d'en prendre 4 en une mi-temps, ils en prennent 8. Quoi. Et la deuxième chose, c'est après la construction de l'équipe. Parce que quand tu veux mettre un pressing en place, bah, il faut des mecs concentrés à la perte de la balle et des mecs qui tactiquement ont une vraie culture. Je suis désolé, mais quand tu joues avec Benrahma et Cherki, rien que ces deux-là, je parle même pas de Lacazette parce que qui est un attaquant de pointe et je vais pas lui tomber dessus parce que Lacazette fait beaucoup d'efforts depuis qu'il est revenu à Lyon. Mais quand t'as déjà à la perte de la balle Cherki et Benrahma qui sont pas toujours très concentrés, qui ont pas un énorme volume dans le pressing pour récupérer des ballons, déjà t'as deux joueurs en moins. Encore que t'as les deux milieux de terrain, Kakré et Matic. Matic, on le voit, il est rattrapé par l'âge aujourd'hui. C'est un très bon joueur de football, il le montre encore. De toute façon, il a pas la carrière comme il a par hasard. Mais aujourd'hui, Matic, quand tu lui mets un peu de rythme autour, tu lui demandes de courir, de faire des montées de 20-30 mètres, il a du mal sans le ballon. Tu vas aller le faire. Donc pour moi, ça, les deux grosses erreurs, elles ont été là dans la stratégie de Pierre Sage, et c'est de pas le reconnaître. Après, nous dire que la deuxième mi-temps t'a changé et ça a stabilisé en mettant cinq défenseurs et puis densifiant ton équipe à 40 mètres de ton but. Oui, mais là, on est passé par là. Quand tu mènes 3-0 ou 4-1 à la mi-temps, ouais, comme le PSG, bien sûr que le PSG en a fait un peu moins et qu'il y avait de la gestion totale. Et de toute façon, on l'a vu dans les changements de Luis Enrique. Donc, oui, c'était un non-match. Il était aussi un petit peu jugé sur ce match-là. Il nous a déçus. Moi, il m'a déçu. Je pensais qu'il aurait une approche complètement différente. Mais bon, après, pour autant, je vais pas lui couper la tête et dire, non, voilà, il est pas au niveau. Mais pour l'instant, c'est vrai que sur les matchs où il doit élever son niveau, bah il a du mal à faire transpirer quelque chose à son équipe.
Dugas, il s'est un peu enflammé hier, Pierre Sage.
Oui, il a été puni. Il est arrivé avec une équipe ultra ambitieuse, voilà, pas face à un Paris Saint-Germain qui était euphorique, pour qui tout fonctionne actuellement. C'est vrai que quand on regarde les statistiques du match, il y a à peu près autant de frappes pour l'un que pour l'autre, à peu près autant de frappes cadrées, mais après l'efficacité des Parisiens, elle est redoutable. Je pense qu'il a sous-estimé cette équipe parisienne en pensant que peut-être qu'elle marquerait le coup et le pas après sa qualification. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que cette équipe de Paris, même moi, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit capable de produire ce genre de match avec un turnover aussi important. Donc oui, ça a été une réelle surprise. Je pense qu'il s'est trompé. Je pense qu'il a été pris aussi un peu par l'ambiance générale à Lyon qui laisse penser que Lyon peut accrocher l'Europe, que Lyon peut faire un comeback. Voilà, moi avant de le juger définitivement, comme je pense qu'il faudra juger définitivement Luis Enrique à la fin de la saison, qui arrive très prochainement, hein, c'est pas dans 6 mois, hein, c'est très rapidement. Je pense qu'il faudra attendre la finale de la Coupe de France. Je pense que c'est là qu'il faudra voir Pierre Sage ce qu'il va mettre en place face au Paris Saint-Germain sur un match qui est à la base, sur une finale qui est à la base assez inespérée. Donc voilà, je pense que on pourra vraiment voir ce qu'il a dans le ventre à ce moment-là. Mais là pour le coup, c'est vrai qu'il s'est totalement trompé et il a été dans sa composition d'équipe et dans ses intentions de jeu et il a été puni par le Paris Saint-Germain.
Louisa, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que ça peut laisser des traces un match comme ça ou est-ce que ça enlève rien de ce qu'a fait Sage depuis qu'il est à Lyon ?
Non, alors il est vrai qu'après le match, bien sûr qu'on retiendra les failles de cette équipe lyonnaise sur ce match-là, mais ça n'enlève à rien le travail qu'il a fait depuis son arrivée. Et quand on parle de finale de Coupe de France, ce sera un tout autre match. Un contexte complètement différent qui ressemblera pas certainement au match d'hier. Après, pour hier, moi je suis d'avis de Christophe et de Jérôme, il a eu trop d'ambition dans le jeu, trop d'ambition dans la composition de départ, trop de joueurs offensifs. Matic pas assez accompagné au milieu. Hein, Jérôme le disait, il est plus capable de courir et de couvrir autant d'espace seul. Après, malgré la défaite, il y a eu de bonnes choses offensivement. Hier, ils perdent surtout sur leur jeu défensif. Ils n'ont pas été capables de gérer les positions larges du PSG. Ils n'ont pas su s'organiser, notamment sur la largeur et entre Benrahma, Nouama et les latéraux. Donc, le petit regret, moi, c'est qu'ils n'ont pas su se réadapter après les buts pris rapidement. Donc voilà, tactiquement, ils n'ont pas su s'adapter à ce que proposait le PSG. Donc voilà, après en deuxième mi-temps, c'est vrai que le fait d'avoir fait des changements, ça a augmenté leur capacité à défendre, mais sur la première mi-temps, il y a eu trop de failles exploitables qui n'ont pas su gérer. Mais aussi le PSG s'est présenté avec une équipe remaniée, mais ils ont été incroyables sur cette première mi-temps. Dans le jeu.
Après moi, ce que je sais pas hein, si c'est le cas, mais quand une équipe comme Lyon, alors Duga, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que en effet il y a une enflammade aujourd'hui du côté de l'Olympique Lyonnais, et on se dit tiens pourquoi pas l'Europe avec ses résultats, et à juste titre hein, ils sont remontés, ils sont revenus de nulle part, et là ils montrent le bout de leur nez. Cette enflammade, je pense qu'elle a touché aussi Pierre Sage automatiquement, et que dans sa construction d'équipe, quand tu viens au Parc en étant aussi ambitieux, c'est vraiment que tu veux montrer que regarde tactiquement Luis Enrique, je vais te montrer que moi je peux te contrer là-dessus, que j'ai les joueurs pour ça et je vais les porter là-dessus.
Des matchs plus à la portée de Lyon, il l'a pas fait.
C'est vrai. Et où il a minimisé la chose aussi, c'est que ces matchs, et là, lui, il les découvre, hein, il est inexpérimenté là-dessus. D'ailleurs, ces matchs à haute pression, et ce qu'il aura, et je lui souhaite, hein, s'il continue l'année prochaine, ce qu'il aura d'autant plus l'année prochaine, parce qu'il y aura d'autres ambitions à Lyon. Là, il faudra pas sauver Lyon, il faudra mettre Lyon tout là-haut. Mmh. Et ben donc, la pression, elle sera différente. Ça, ces matchs à haute pression, je suis désolé, il y a l'approche technico-tactique, on est d'accord, les entraîneurs, ils mettent en place ces trucs, et c'est pas tu joues en 4-4-2 et tu vas gagner, ou en 4-3-3, bien sûr qu'il y a des plans en fonction de l'adversaire. Mais psychologiquement, mentalement, il faut aussi faire grimper les mecs au rideau. Dire, tu peux pas entamer un match au Parc des Princes, prendre le premier but au bout d'une minute trente sur un contre où t'as l'impression qu'ils sont même pas dans les duels, et que sur le deuxième coup dur, du moins le coup de pied arrêté, t'as un premier duel qui est perdu et t'as Beraldo qui se retrouve tout seul au 5-50. Donc pour moi, c'est un problème aussi d'approche. Et là, et Pierre Sage, il a fauté sur ce match-là.
On va donner la parole à Pierrick dans une seconde, qui a fait le 32-16. Est-ce que le discours de Pierre Sage a montré des limites hier soir au Parc? On lui donne la parole sur RMC dans Rotten sans flamme. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h15 sur RMC, on est là, on est bien. On continue de parler de l'Olympique Lyonnais et de Pierre Sage, oui, qui s'est trompé hier. On en parle avec Christophe Dugas, avec Louis Anessib et avec Jean-Louis Tour. Et puis dans 10 minutes, il y aura un excellent ring des supporters.
Bah oui, Moumbagna, est-ce que c'est le nouveau Brandao ou le nouveau Mitroglou? 32-16 pour monter sur le ring des supporters. Pierre Sage a-t-il montré certaines limites? Enfin, son discours a-t-il montré des limites hier? Pierrick nous rejoint au 32-16.
Salut Pierrick.
Salut tout le monde.
Bienvenue Pierrick, ça va?
Ça va et toi?
Tu fais quoi dans la vie Pierrick?
Ah, moi je suis assistant d'éducation dans un lycée là.
Ah, bravo. Il y a du boulot. Bah,
merci.
Il y a du boulot.
Non, ça va, je suis pas à plaindre.
Bon, bah tant mieux alors. Bon, qu'est-ce que tu penses de Pierre Sage?
Je pense que oui, c'est un petit peu trompé hier. Quand ton équipe elle en prend 4 en première mi-temps, on peut pas dire que tu t'es pas trompé. Il y a forcément un endroit où ça a pêché. Maintenant, est-ce qu'on peut le juger comme un entraîneur aguerri? Il a que quelques mois de Ligue 1 dans les pattes déjà. Et puis surtout, est-ce qu'il a pas aussi fait des tests avant la finale de Coupe de France? C'était le moment. En championnat, on a plus grand chose à perdre. Par contre, en Coupe de France, on a tout à gagner. Donc, moi, je pense qu'il a peut-être tenté des trucs. Et puis voilà. Et puis, il changera peut-être pour la finale de Coupe de France.
Ah, au moins, il sait qu'il peut pas débuter un gros match comme ça. C'est ça que tu veux dire?
Non, ça, c'est clair et net. Il se met trop en danger. Et c'est ce qu'il a fait en deuxième mi-temps. Alors, même si le PSG a levé un peu, a levé le pied, il a changé. Il y a une équipe qui avait un tout petit peu plus de maîtrise quand même. Donc, il s'est trompé, oui. Mais, il a su aussi un petit peu rectifier, et je pense que c'est de bon augure pour la finale et le mieux l'aborder, quoi.
Est-ce que le problème qu'il a aussi, c'est pas le problème qu'ont eu d'autres entraîneurs de Lyon, c'est un problème avec Cherki. Parce que Cherki, il a fait des bonnes entrées, il méritait sans doute une titularisation parce qu'il est bon en ce moment, etc. Sauf que pour le faire jouer, t'es obligé de changer de système, d'enlever un milieu de terrain.
Ouais, bon,
parce
après
que sur
ça,
le côté, il est moins impactant qu'en 10, quoi.
Bah, il est moins impactant.
C'est une dans le pied, Cherki, hein, quand même. Hein. C'est très, très dur de le gérer, tu le mets où sur le terrain, dans ton dispositif. Titi, tu le fais jouer comment? Il est bon. Quand il est titulaire, il est moins bon. C'est compliqué. Ouais. Bon, après, titulaire contre le PSG, t'es forcément un peu moins bon que remplaçant contre je ne sais quel.
Non, mais Pierrick, je suis d'accord avec cette analyse-là. Après, il faut pas prendre Cherki pour, comme tu l'as dit, une épine dans le pied quand tu le mets, quoi. Tu vois, au contraire.
Avec Cherki
aujourd'hui, très clairement, et Jean-Louis a raison, tu le fais jouer sur un côté, il manque quand même de volume. Mmh. Et tous les joueurs de côté aujourd'hui, mis à part les grands, les cadors, là, qui se prennent par moment pour d'autres, c'est-à-dire que quand ils perdent le ballon, ils oublient ce qu'il y a à faire. Mais bon, pour ça, quand t'as ce genre de personnalité, vaut mieux faire des différences, marquer des buts ou faire des passes décisives, ce que ne fait pas assez Cherki. Donc automatiquement, sur le côté, il faut des combattants aussi.
Le problème de Cherki, c'est que tu peux pas faire l'équipe autour de lui parce qu'il est pas suffisamment fort, aguerri et décisif. Mais aussi, c'est difficile de le mettre dans un collectif parce qu'il se fait pas suffisamment d'efforts. Donc aujourd'hui, la position de Cherki, comment je le mets, comment je l'utilise, dans quelles conditions, dans quel système, c'est compliqué. T'as envie de lui donner sa chance parce que tu sais que c'est un joueur qui peut te faire des différences incroyables. Mais ça me fait penser, tu vois, un joueur qui peut te faire gagner les matchs comme il peut te les faire perdre. Il va t'en faire gagner 1/5. Mais c'est pas suffisant, parce que gagner un match sur 5, malheureusement.
Ouais, Louisa,
comment Cherki est meilleur quand il rentre durant les matchs. Il apporte toujours quelque chose. On attend toujours qu'il y a un petit exploit qui sort de ses pieds, que quand il les débute. Quand il les débute, il a pas ce volume de jeu, ce volume de course. Il a pas cet esprit défensif pour l'équipe. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué.
Si toute sa carrière, il va falloir qu'il rentre pour être bon, ça va être.
Ouais, le problème, c'est que moi, Louisa, ça, j'y crois pas, moi, aux joueurs qui sont excellents quand ils rentrent, et quand ils sont titulaires, ils arrivent pas à tirer leur
épingle du jeu. Mais c'est ce qu'il nous montre à tout cas, Cherki.
Mais c'est vrai. Non, mais là où je vous rejoins tous les deux, c'est que il y a un positionnement, c'est compliqué. Déjà, on voit très clairement que jouer sur un côté, c'est problématique. Donc, il faut qu'il joue dans l'axe.
C'est quoi sa position? Alors, un numéro 10 pour toi?
Ouais, un numéro 10.
Les deux attaquants?
Ouais, mais le problème, c'est que numéro 10 aujourd'hui, ça s'est un peu perdu. C'est vrai, ce rôle-là de numéro 10, comme ça, à l'ancienne, où tu vois, les mecs qui ont pas forcément un grand volume, mais qui ont de la qualité dans le pied et même dans l'œil. Ouais, et que à Lyon.
T'as vu Asensio hier, comment ça galope? T'as vu Vitinha?
Ah, ben non, mais rien à voir.
Aujourd'hui, les milieux de terrain, ça demande, beaucoup de choses que Cherki n'a pas, parce que le football a évolué, le football a progressé, il joue dans un certain registre, et c'est vrai qu'aujourd'hui, être milieu de terrain, même offensif, si t'es pas capable d'avoir un plus gros volume de jeu, c'est très, 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 très compliqué.
Ouais, c'est vrai, après, à côté de ça, le volume, quand Laurent Blanc, l'année dernière, l'avait fait jouer très souvent, on voyait les stats, et franchement, il augmentait, et moi, il me surprenait. On voyait Cherki qui était capable de courir 10, 11 kilomètres dans le match. Et tu te dis, mais quand tu le vois, c'est plus un joueur comme Messi à courir 7 km que d'en faire 10 ou 11. Donc Laurent Blanc avait réussi ce côté-là à lui mettre ça dans la tête, qu'il fallait qu'il ait plus de volume. Et s'il le fait, c'est qu'il était capable de le faire. Mais le problème de Cherki, moi je pense, et quand tu l'entends même dans son interview dernièrement, pour lui le football, c'est une passion, c'est un spectacle, et que il fait pas en fonction de son équipe, de l'entraîneur, ce qu'il demande. Donc en fait, il joue sur courant alternatif. Je pense que même au niveau de la concentration, il disparaît trop souvent sur une mi-temps, et c'est pour ça que c'est problématique pour son équipe. Hier, quand tu le vois, très, même si à mener 2-0, ils ont eu des situations, tu l'as dit, du gars, ils ont frappé 11 fois au but. Ah bon, après tu peux frapper 11 fois au but et mettre en danger l'équipe qu'une ou deux fois, hein, tu vois, ce qui a été le cas.
Mais Paris 6 fois 4 buts.
Ouais, c'est vrai. Oui, mais sauf que à chaque fois que Paris récupérait le ballon, tu savais qu'il y avait 2-3 joueurs qui étaient éliminés systématiquement. Et ça, c'est pas possible.
Bah, on l'a pas vu de l'année, hein. Mais un tel boulevard pour le PSG.
Ben non, mais quand t'as des joueurs, et encore une fois, là, on se focalise sur Cherki. Mais Nouama, c'est la même chose. Avec le ballon, il fait des bonnes choses. Il n'y a pas de problème. Il est percutant. Mais, putain, quand tu perds le ballon, il faut être concentré, les gars. Et je pense qu'ils ont un problème de concentration. Et Benrahma, c'est la même chose sur l'autre côté. Donc, quand t'as déjà tes 3 milieux offensifs, attaquants, là, qui disparaissent à la perte de la balle, pour n'importe quelle équipe, c'est compliqué, hein.
Dans la transition, ils mettent trop de temps, ils sont pas assez réactifs.
Ouais, exactement.
Thierry, est-ce que selon toi, le match d'hier et son résultat va peser sur la Coupe de France, sur la finale?
Bah oui, quand même, ouais, parce que on a été dépassé dans tous les domaines, donc quand même, je pense que t'arrives, ça aurait été mieux d'un peu plus batailler sur ce match plutôt que de prendre une volée. Donc oui, je pense que ça va un peu peser. Maintenant, est-ce que ça va peser négativement, positivement? Peut-être que avec l'orgueil, ils vont peut-être vouloir y aller avec le couteau entre les dents aussi.
Quand est-ce qu'elle est la finale de la Coupe de France, Jean-Louis? Avant la finale, avant la finale de la Ligue des Champions.
Une semaine avant la finale.
C'est après la dernière journée de Ligue 1 et une semaine avant la finale de la Ligue des Champions.
Le 25 mai, il y a vraiment 7 jours.
Ça peut.
Une semaine avant PSG Real.
Ça peut être une opportunité pour Lyon. Pour Lyon. Ouais.
Bon, le PSG n'est pas encore en finale.
Non.
Dortmund avant.
De quoi? Oui.
De Ligue des Champions.
Oui, mais. Voilà. Après, moi, pour Lyon, ce match-là, alors forcément, il te reste dans les têtes, hein, quand tu les as joués un mois avant et que tu en as pris 4 en une mi-temps, mais il va rester dans la tête de Pierre Sage, c'est peut-être là, et là, il va montrer son intelligence, c'est-à-dire de dire, écoute, on fait quelque chose de plus basique que certaines équipes ont déjà réalisé contre le PSG, c'est-à-dire que ce qu'il a fait en deuxième mi-temps. Alors en deuxième mi-temps, il y a le scénario du match qui donne cette deuxième mi-temps, cet aperçu où tu as l'impression que Lyon maîtrise bien le Paris Saint-Germain. Moi, j'y crois pas là-dessus parce que le PSG a joué vraiment avec le frein à main sur la deuxième mi-temps. Mais n'empêche qu'il faut accepter que contre le PSG, t'es pas le ballon, t'as pas la possession. Par contre, tu lui mets un bloc devant lui de 8-9 joueurs. C'est compliqué de passer, de faire des redoublements de passes et de t'approcher du but adverse. Et dès que tu récupères le ballon, il faut savoir contrer. Il y a des équipes avec moins de moyens de Lyon qui ont réalisé ça, hein, les gars. Rennes l'a fait au Parc dernièrement. Brest l'a fait aussi. Donc, pourquoi pas Lyon sur une finale de coupe? C'est totalement possible.
Hein. Allez, on en reste là sur Lyon. Merci Pierrick. Bonne soirée.
Merci à vous.
À bientôt pour débattre autour de Lyon. On revient dans une seconde avec donc cette question. Mumbagna, est-ce que c'est le nouveau Brandao ou le nouveau Mitroglou, à vos yeux? 32-16, à tout de suite, on vous fait monter sur la ligne des supporters.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h27 sur RMC, on est là, on est bien dernière demi-heure de Roten sans flamme, c'est maintenant. Oui, c'est maintenant, on va parler de Mumbagna, l'homme de la semaine du côté de l'Olympique de Marseille, le héros de l'OM en Coupe d'Europe. Et puis il a arraché un point à Toulouse. Et oui, on est avec Christophe Dugarry, avec Louis Anessib et avec Jean-Louis Tour. Et dans 15 minutes, c'est le moment du quiz de Julien Cazaracin. Tu l'as dit tout à l'heure, un super cadeau à vous faire gagner.
Exactement. Le super cadeau, c'est une semaine dans une résidence Lagrange Vacances. Une résidence 3 ou 4 étoiles partout en France. Vacances à la mer, à la montagne, à la campagne, où vous voulez. Pour vous inscrire, vous envoyez top au 732-16. Top au 732-16. Et si vous êtes fan de Julien Cazard, vous pourrez aussi podcaster tout à l'heure le Cazard enchaîné avec sa chanson sur Luis Enrique. Mais tout de suite, effectivement, Jérôme, l'homme de la semaine.
RMC, Roten sans flamme.
Le ring des supporters.
Et oui, le héros de jeudi dernier, le héros marseillais de jeudi dernier a de nouveau frappé, donc lui qui a marqué le but qui a permis à l'OM d'aller au tir au but en demi-finale d'Europa League, Faris Mumbagna a donc cette fois permis à l'OM d'arracher le nul à Toulouse avec ce retourné improbable, dénouement improbable même pour lui vu de nouveau, faut bien le dire, son imprécision technique pendant le match comme contre Benfica. Alors selon vous, Mumbagna, est-ce que c'est plutôt le nouveau Brandao capable d'aider l'équipe dans de grands matchs et même de remporter des titres, ou le nouveau Mitroglou, le dernier gros flop offensif? Bon, dernier gros flop offensif, il y avait Vitinha aussi, mais voilà, on est parti sur Mitroglou. 32-16, on a Noah qui monte sur le ring des supporters, Jérôme.
Salut Noah.
Salut Jérôme, salut Jean-Louis et salut à tous.
Bienvenue Noah. Alors, qu'est-ce que tu en penses de Mumbagna?
Pour moi, Mumbagna, là, entre Brandao et Mitroglou, c'est clairement plus du côté de Mitroglou, Vitinha. On voit, par toutes ces errances techniques, les contrôles manqués et les passes manquées sur les contres au milieu du terrain ou en phase offensive. Donc moi, je pourrais vous donner une petite stat que j'ai compté moi-même pendant le match contre Benfica. Mumbagna, il a glissé 3 fois en voulant faire un contrôle. Je pense que ça fait beaucoup quand même. L'excuse du fait qu'il ait marqué les buts, le but contre Benfica, je pense que la tête, il peut la mettre autrement. Qui veut pas la mettre comme ça déjà. Donc je pense qu'il se rate aussi même sur le but contre Benfica. Et contre Toulouse, là, on peut que l'applaudir, mais j'ai pas vraiment d'explication rationnelle pour expliquer qu'il rate les contrôles et des passes faciles, mais qu'il arrive à mettre un si beau retourné acrobatique. Et pour finir, il y a beaucoup de gens qui disent que l'OM a besoin de jouer avec deux numéros 9, avec un deuxième numéro 9 avec Aubameyang, que ça aide l'équipe et Aubameyang. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas relancer Ndiaye, qui a connu quand même une bonne période à l'arrivée de Jean-Louis Gasset comme le reste de l'équipe, et qui a beaucoup moins d'errance technique que Mumbagna.
Je sais pas. Duga, toi, en penses quoi de Mumbagna?
Pour toi, c'est plutôt Mitroglou.
Pas clairement.
Duga.
C'est compliqué. Il est ni l'un ni l'autre et en même temps, il est les deux. Après, c'est quoi la différence entre Brandao et Mitroglou?
Brandao,
il a eu un petit peu plus de réussite. Il a gagné quelques titres en plus. Il a eu un rôle physique beaucoup plus déterminant. Mais il avait aussi les pieds quand même où c'était très compliqué. c'est sûr que.
Donc Mitroglou, t'avais même pas l'impression qu'il pesait sur les défenses et que les autres pouvaient bénéficier de ça.
Non mais là c'est pareil, il va peser sur les défenses. Je crois qu'il fait quoi, 1m85, il fait 98 kilos, donc voilà, il va peser sur les défenses.
Oui, voilà.
C'est un sacré athlète, ouais. C'est un sacré poulet. Mais après le football, ça se joue dans les pieds, ça se joue pas dans dans les muscles ou dans les jambes ou voilà. Bon, il a montré de telles limites techniques que c'est presque.
Ah, c'est dur.
Étonnant de voir qu'un joueur avait aussi peu de qualité technique puisse même jouer en Ligue 1.
Ah oui, c'est ça. C'est surtout ça.
C'est là, on a vu des choses quand même. Ça pique les yeux, Jean-Louis. C'est vraiment.
Non mais
il y a des mecs qui ont jamais joué en pro, alors que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2 ou même en National, ils doivent se dire mais ce mec, comment il fait pour jouer en pro?
Moi, du gars,
c'est qu'il doit avoir des qualités. Pour l'instant, il n'a pas pu les montrer, mais s'il est là, c'est qu'il doit quand même avoir quelque chose.
Il va avoir que des qualités de finisseur.
Non mais. Moi, je suis désolé, mais du gars, pour rebondir sur ce que tu disais.
C'est pour ça quand même.
Ce que tu disais, c'est que j'en parlais tout à l'heure en privé dans les couloirs là, avec Oussem.
Oui.
Et je disais, mais moi, ce que je comprends pas, c'est que quand t'es en France, que t'es formé en France, d'accord, que tu joues à un niveau inférieur à la Ligue 1, donc en Ligue 2, en National, même en Ligue 1, dans des petits clubs, quand tu signes à l'Olympique de Marseille. Ou qu'on veut te faire signer, qu'on te contacte, c'est vraiment parce que c'est une fierté, t'as excellé et on t'a vu des dizaines de fois et que quand on te signe encore plus dans un mercato d'hiver, c'est vraiment pour apporter quelque chose et qu'on est persuadé que tu vas t'incorporer à ce club et apporter le maximum et continuer ta progression. Mais aujourd'hui, je me dis, et là, pour rebondir sur ce que tu disais, tu vois, des attaquants, même en France, juste en France, qui jouent à l'étage inférieur, il y en a techniquement, mais deux, trois fois plus forts que Mumbagna, d'accord.
Ouais.
Alors, c'est sûr qu'ils n'ont pas son physique. Ils n'ont pas les muscles bien
ça
développés.
C'est intéressant, ça, Jérôme, de savoir pourquoi ils l'ont recruté. Qu'est-ce qu'ils attendaient
exactement,
de ce joueur qu'ils ont recruté?
Parce que, moi, je suis désolé, Duga, mais quand on voit ta cellule de recrutement recruté, il vient de
Bodo Glimt en Norvège.
Donc
il voulait du poids en fait. Vitinha Pasini,
en fait.
Il voulait un attaquant de poids.
Non mais j'espère juste que ils l'ont vu des dizaines de fois et des dizaines de fois parce qu'ils l'ont pas signé sur une vidéo.
Benazia le suit depuis longtemps.
Non mais d'accord. Donc qui nous disent alors qu'ils viennent nous expliquer et Mehdi et il en a pas parlé vendredi comme par hasard, mais je suis désolé mais là ils se sont trompés sur toute la ligne et le mec qui a été voir et qui a fait un bon rapport sur Mumbagna.
Ah ouais, pour toi, il est complètement inutile. Tu peux pas te dire que Aubameyang,
le
que les mecs autour
vont, en fait.
Mais quel profil
tirer profil de sa présence.
Ça veut dire quoi, Louisa, le profil? Parce que là, je comprends pas, en fait.
Ah, mais moi, j'aime pas du tout, hein. Déjà, non. Pour commencer, c'est pas du tout le genre de joueur.
Mais c'est quoi le profil, alors? Un mec qui a des bottes. Qui a des bottes.
Une présence à la surface de réparation. On voulait apporter des muscles, un physique, c'est tout.
Mais
voilà.
Rassure-moi, Louisa, c'est pas ça le football quand même.
Quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille,
que tu t'appelles Troyes dans l'Aube et que quand ils jouaient le maintien ou l'Orient,
mais aujourd'hui à Marseille, tout le recrutement n'a pas été bon. C'est pas le premier de toute façon. Alors oui, il est vraiment pas bon du tout parce que j'ai une situation contre Benfica. Il a 3 mètres d'avance sur une conduite de balle. Oui,
on la voit, il tombe presque.
Je me suis dit, il va aller au but, il va marquer le mec.
Ouais.
Mais pas du tout. Donc en fait, sur tous les.
Elle est bonne, Louisa.
Non, mais en fait, parce que moi, ça m'énerve de voir qu'un profil pareil, il réussisse à signer à l'Olympique de Marseille. Mais aujourd'hui, en Ligue 1, on recherche plutôt ce genre de profil qu'un joueur élégant, classe, propre techniquement, mais avec peut-être un petit physique.
Ils ont Harit et ils ont Unai. Ils sont propres techniquement. Et regarde,
mais ils n'ont que ça. Eux, par contre, ils n'ont que la technique.
Vous ne trouvez pas qu'Aubameyang est meilleur quand Mumbagna est là?
Mais il lui sert de point de fixation.
Bah voilà.
C'est tout.
Il est là pour
en
ça
fait,
aussi.
Je pense qu'Aubameyang est content quand Moumbania joue parce qu'il se dit au moins si je me trompe techniquement, de toute façon les gens vont me prendre pour un monstre parce que quand ils vont me comparer à Moumbania à côté,
mais il peut progresser tranquille. Ce joueur, non, c'est mais... incroyable sur le plan technique.
Mais il est complètement inutile
tout
à l'équipe quand il est là.
Mais non, mais
après qu'est-ce qu'il vaut mieux? Il vaut mieux Correa à 450 000 euros par mois ou Moumbania?
Bah largement Moumbania.
Bah aucun des deux du gars. Mais le problème c'est que là
il a été décisif cette semaine Correa, j'ai jamais pas été décisif.
Non mais c'est vrai, mais
t'as vu les deux buts qu'il
là,
quand même.
Là pour revenir sur la question de profil que j'ai pas compris, hein, Louisa, et c'est pas vous contre toi parce que un profil comme Moumbania.
Mais il a un profil bien précis quand même. Moumbania.
Ah bah bien précis, c'est quoi? C'est
costaud, grand costaud.
C'est costaud
pivot.
Qui va peser sur la défense et qui va être présent sur les
centres. Mais va dans
centres.
La salle de muscu là, ici les Moulineaux à côté
que dans
de
la
chez
surface,
moi. Je vais t'en prendre des mecs costauds, hein, et tu leur dis restez dans la surface.
C'est lui qu'ils ont choisi.
Non, mais ce que je veux dire c'est que tu peux, c'est pas pour moi un profil de recrutement.
Ça je comprends pas.
C'est pas un profil de recrutement quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille.
Pivot,
mais peut-être qu'il recherchait ça, c'est certainement ce qu'il recherchait s'il l'ont recruté.
Non mais d'accord.
Ça n'existe pas des aventures comme ça.
Mais pivot costaud, les gars, il y a juste le ballon quand il a le ballon dans les pieds. Alors là, tu vas me dire c'est contradictoire parce qu'il a mis un ciseau contre Toulouse et il a mis une tête. Où là, je suis d'accord avec Noah, notre auditeur, où la tête. Génial, il a fermé les yeux, il a vu la tête, il a mis devant, elle est passée avec la réussite, elle est passée entre les jambes du gardien.
Qu'est-ce que t'es dur, toi? Mais au moins de la tête pour finir comme ça, c'est là où il a un peu
ce qui est gros, Jean-Louis, ce qui est gros, c'est qu'il y a un tel déficit technique que tu ne peux, tu peux pas t'imaginer. Tu peux avoir des pieds moyens, mais là, le déficit technique, il est tellement important que tu te dis, t'as vu les conduites de balles, les contrôles, la faiblesse de la base du football. La base du football. Le football, c'est pas être costaud et faire des déviations de la tête ou avoir une présente, mettre des coups de coude. Ça peut aider. Mais ça peut pas être le football. Ça peut pas être la définition
du gars, en plus, où là, malheureusement pour lui, il est rattrapé un peu par la patrouille. C'est que rappelez-vous de son interview, après la Coupe d'Afrique. Il a dit, je vais tout casser à Marseille. Moi, vous me connaissez pas.
Oh, mais arrête!
Non, mais, donc, forcément, lui, même lui, en fait, il a aucun recul sur son niveau. Moi, je vais te dire.
Non, mais là,
il
a Jérôme, là, pardon, je te comprends pas. Je vais pas être aussi violent que du gars.
Il a aucun recul sur
Jérôme,
son niveau.
Toi, tu te plains des joueurs qui disent rien, disent pour assez petit.
Mais vaut mieux
fermer
sa tronche quand t'as ces qualités-là.
Il dit, j'ai envie de tout casser. Bon,
mais tout casser. Mais tout casser. Ah, c'est sûr que les portes du stade, il peut les casser. Il est costaud.
Le mec, il vit son rêve de jouer à Marseille. Il le dit. Il a envie de. Il
mais
dit, je vais tout casser.
Tu m'étonnes
voilà,
que c'est un rêve.
J'arrive à bloc, mais quoi.
Là, c'est la lucidité qu'il a eue. C'est que pour lui, c'est un rêve. C'est un rêve de jouer à l'OM.
Non, mais le discours, où il dit, je veux tout casser avant d'arriver.
Jean-Louis, regarde un peu plus les matchs de Ligue 2 et tu verras qu'il y a des joueurs, des attaquants de Ligue 2 aujourd'hui, grâce à Moumbania, qui se disent, je peux signer à Marseille l'année prochaine. L'attaquant qui joue en national à Niort ou à Sochaux, il se dit, je peux signer à Marseille. Ben oui, parce que si je vais vite, si je suis costaud et un peu plus de technique, parce que c'est pas dur d'en avoir un peu plus, et un peu plus de sens de jeu, je peux signer à l'OM. Mais c'est quand même grave, quand même, de parler comme ça. On parle de Marseille, c'est le deuxième, troisième meilleur club français, quand même. Là, on parle pas de Lorient, avec tout le respect pour ou Clermont, les clubs qui jouent la relégation. Que eux fassent ce choix-là, y a pas de souci. Tu veux un profil costaud, ah, tu tentes un coup. Bah écoute, ou le Havre, tu tentes un coup sur Moumbania, et puis t'es rattrapé un peu par la patrouille parce que tu te dis, ouais, techniquement, c'est vraiment très très léger, il peut pas jouer en Ligue 1 celui-là. Mais là, on parle de Marseille, ils peuvent pas se tromper autant. Oh, ils peuvent pas se tromper autant. Et surtout, c'est pareil. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. Donc en fait, ils ont pris une salle de muscu. Ils se sont dit, tiens, là, y a des mecs qui font de la muscu. Ils sont pas assez costauds. Donc là, on va en prendre deux. On va prendre Onana et Moumbania.
Mais là, c'est le mercato d'hiver. Vous dites tout le temps qu'on peut prendre personne au mercato d'hiver. C'est une histoire d'opportunité. Bon, voilà. Tu sais bien que tu prends pas le premier choix à ce moment-là.
Mais tu peux prendre le deuxième ou le troisième.
Oui. Et puis t'es pas obligé de prendre si tu trouves pas. Mais Jean-Louis, est-ce qu'il
faut acheter pour acheter?
Jean-Louis, est-ce que tu es d'accord avec moi que même en Ligue 2, des mecs qui vont coûter moins cher que Moumbania, parce qu'à l'arrivée, ils ont quand même mis un peu d'argent, tu vois, n'auraient pas fait l'affaire à Marseille?
Moi, je te fais confiance.
Non, mais écoute, excuse-moi.
Moi, je vois juste qu'il marque des buts dans les moments décisifs.
Mais il marque des buts, il a marqué deux buts en trois jours.
Les deux buts les plus importants de la saison.
Oui, bah d'accord. Bah écoute,
Benfica, il a pas tremblé. Oui. Ton attaquant national, peut-être qu'il
aurait tremblé. C'est Brandao, alors voilà, c'est la question, c'est Brandao.
Ah, merci, ça fait plaisir. Alors, on a un appel. du plus grand défenseur de Mumbagna qui est ulcéré par ce qu'il entend depuis tout à l'heure. C'est Steve Savidan.
Oh mon Dieu.
Salut Steve.
mais vous êtes pas sérieux là. L'autre, le roi de la muscu du fitness, là, Jérôme Roten, là. mais vous êtes sérieux ou quoi?
C'est vrai. Ah, c'est vrai que toi, tu nous l'avais vendu parce que tu le connaissais.
Bien sûr, vas-y, Steve.
Je te laisse.
Non, mais les gars, et Louisa, j'étais d'accord avec toi quand tu disais c'est un profil différent. Bah ouais, comme toute équipe, comme tout recrutement, on essaye d'associer des profils différents. Alors c'est sûr, il glisse, c'est sûr, il est moins élégant que Christophe Dugarry à la grande époque. De Bordeaux, que Jérôme Roten à 3 quand il a gagné le super trophée de la Ligue 2. Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise?
Non, 3 c'était l'intertoto.
Excuse-moi, respecte-moi 2 secondes, c'est une coupe d'Europe.
Mais franchement, il faut se rappeler le contexte. C'était la fin de la CAN, il était en fin de contrat et fin de saison dans son club en Norvège. Et honnêtement, moi je trouve qu'il fait le job depuis qu'il est là-bas. Alors c'est sûr qu'il n'est pas parfait, il a 23, 24 ans, je crois.
23, oui.
Louisa, tu disais qu'il ne pouvait pas encore progresser.
Qu'il ne pouvait que progresser.
Il ne pouvait pas régresser, quoi.
Et il a plein d'axes de travail, d'ailleurs. Non, il pouvait que progresser.
Ça, c'est l'avantage. Tu peux piocher tous les jours.
Ce que j'écoutais sur la route, franchement, j'étais comme un fou.
Ouais.
Je voulais intervenir.
Alors, on s'excuse.
T'as bien fait. Mais attends, où sont les arguments, Steve?
Il n'a pas trop réhabilité, là, quand même. Toi, tu le trouves bon, alors, t'as dit?
J'ai pas dit que je le trouvais extraordinaire, c'est pas le problème.
Non, tu le trouves bon.
Je trouve que dans un effectif comme Marseille, c'est un joueur dont on a besoin.
Je suis d'accord avec toi.
Jérôme, franchement,
je suis content qu'il avance.
Et pourquoi besoin? Pourquoi en fait?
Franchement, regarde, il te marque 2 buts cette semaine.
Ouais, d'accord.
Ça fait combien de temps que t'as pas marqué 2 buts en une semaine, toi?
Voilà l'argument.
Moi, je suis plus sur le terrain.
Ça fait combien de temps? Il a raison, Steve.
Bon, voilà. Moi, c'était juste pour ça. Je voulais juste faire une petite aparté. Et puis, du gars, j'étais sur la route pour arriver à Bordeaux. Oui. Honnêtement, j'ai ralenti parce que la première heure, t'as déchiré Jérôme Bretagne. J'adore.
Non, mais il est infernal, lui. C'est le moment où c'est bien d'invité gênant. Merci, Steve. À bientôt.
Steve, on se retrouve pas cette semaine, mais dans un mois. Allez, bisous.
Il est suspendu cette semaine, Steve.
Bisous.
Merci, du gars.
Allez. Bon, pour ça, il est suspendu cette semaine, Steve.
Non, il n'est pas suspendu, mais là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'on construit une équipe, t'as des profils. Et c'est pareil dans l'équipe de consultants. Nous, on a pris un profil à Steve Savidan. On a testé. C'est le Mumbagna de RMC, Roten sans flamme.
Il est quand même plus utile.
Écoute.
Remarque, l'autre, il aime bien quand même.
Chacun son avis. Et après, il peut aimer Mumbagna.
Qui a le plus mieux réussi sa saison, Mumbagna ou Steve Savidan? Franchement, c'est une bonne question, j'aime bien.
Il peut nous rappeler s'il veut.
Ça, c'est Antoine, ça. Non, du tout. On remercie Noah qui est venu au 32-16. À bientôt, Noah.
Salut, Noah.
32-16 sur RMC. Et dans une seconde, le quiz. Julien Cazard qui est de retour avec nous et une belle semaine de vacances à gagner. Et surtout, vous allez lancer la semaine, soit Grand Chelem, soit Cuillère de Bois pour Jérôme. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h45 sur RMC, on est là, on est bien fini. Les 2 heures de Roten sans flamme, dernier quart d'heure, ça veut dire le quiz de Julien Cazard avec une équipe. Aujourd'hui, Louisa Nessib et Christophe Dugarry contre moi et mon joker, c'est Jean-Louis Tour, 2 auditeurs. Et aujourd'hui, j'ai envie de les battre.
Allez, on y va.
Roten contre le reste du monde, saison 3.
Cette semaine, c'est pas une semaine de Coupe d'Europe, donc tu peux gagner.
Oui, il y a la Ligue 1.
C'était dit avec beaucoup de conviction, j'ai envie de les battre.
Faut avoir envie de gagner, c'est l'effet Lucien Riquet.
Il y a une semaine de vacances dans une résidence Lagrange à gagner. Ça sera soit pour Adrien, soit pour Nicolas. Bonsoir à tous les deux.
Salut les gars.
Salut. Bonsoir.
Adrien, tu veux faire équipe avec Jérôme ou avec le reste du monde?
Ouais, je vais faire confiance à Jérôme.
Allez, personne ne te force.
Nicolas, t'es avec donc le reste du monde.
Nickel.
Allez, Désola.
Désola.
Désolé.
Désolé.
Désola.
Excusez-moi.
Question flash. Quel stade ne pourrait pas accueillir plus de 5000 supporters en cas de Coupe d'Europe l'an prochain?
Le Blé. Est.
Le Est. Blé. Mais le stade s'appelle le Blé. Désolé. Stade Francis Le Blé.
Francis Le Blé.
Francis Le Blé. Bonne réponse de Jérôme Rotel.
Le stade.
Le stade Francis Le Blé.
1-0 pour Jérôme.
C'est le stade. Brest n'est pas un nom de stade, c'est un nom de ville. Excusez-moi.
Pense audience, là, il veut vraiment pas que tu gagnes.
Je suis désolé. Même si dans l'oreille, quand même, Antoine Varnier me dit, il a pas dit Francis, des Leblé, il y en a plein. Il y a plein de Leblé, il y a Gérard Leblé, Simone Leblé.
Ouais, Simone, ouais.
Toute la famille ouais, Leblé. Tu pensais pas forcément à Francis?
Non, d'ailleurs. Non, c'est pour ça,
Il a pas tort.
Christian.
Il a jamais tort, Antoine Varnier. Il pense audience. Mon premier, c'est l'objectif d'Auxerre et de Saint-Etienne. Mon deuxième est plus petit qu'une avenue. Mon troisième est bon pour la santé et pour la planète.
Monte Rubio,
bonne réponse. Il connaît ses idoles.
Ah ouais.
Monte Rubio, bonne réponse de Jérôme Rotten. Question Larquet, ça vous dit? Allez, question Larquet. C'est sur 2 points.
À 2 points.
Salut, c'est Jean-Michel Larquet sur RMC.
Oh, c'est moi le dinosaure,
Je prends un joker.
Oh, quoi ? Il a un joker ?
Non, c'est un contre-joker. Il joue pour les autres, pour le reste du monde.
Ça fait 5 fois
de suite. En fait, t'as compris que c'est pas moi qui choisissais les contre-jokers.
Bah,
c'est Barnier. Question Larquet. Question.
Il faut qu'il perde.
Question Larquet.
C'est vrai qu'il dit ça.
Qui a été, je répète pas ce qu'il m'a dit. Qui a été élu Ballon d'Or en 1978?
Ah, Maradona,
Robson,
Rummenigge, Kempes.
Alors déjà, je vous arrête tout de suite. Il y a que les Européens qui ont le Ballon d'Or à l'époque.
Qui gagne?
Keegan, bonne réponse.
Ouais, 78.
Oh. Eh ben oui, 78. Kevin Keegan, bonne réponse de la Duke.
Avec un Anglais, gentil que des Anglais.
Ouais, que des Anglais. En plus, dans une équipe allemande, vous allez tout dire. Question, est-ce qu'on ferait pas une question Almeta? Question Almeta!
Ça faisait longtemps.
Ah, ça faisait longtemps.
La question Almeta, soit tu réponds bien, soit...
Je vais chier sur ton scooter!
Et ça fait un point en moins.
Louisa, est-ce que t'as un scooter?
Non.
On pourra pas chier dessus, mais on va te poser quand même la question.
Je précise juste pour son fan club, ils sont très nombreux, il sera là demain, Pascal, 18h dans Rotten. Ouais.
Il a un fan club?
Bah, bien sûr.
Oh,
bien sûr. Mais les gens adorent Pascal. Il remonte très haut dans nos études qualitatives.
C'est le public de TPMP, c'est quoi?
On va pas.
Allez, il remonte très haut. Il y a Giro et juste
attention.
Après
Louisa, est-ce que tu es avec moi? Il n'y a que toi qui réponds. Dans l'équipe de 2018 de l'Olympique. Olympique, magnifique. Qui a joué contre l'Atlético en finale. T'en souviens ou pas, cette belle finale? Atlético Madrid, Marseille Atlético Madrid 2018, t'es avec moi ou pas?
Louisa?
Louisa. Oui, je suis là.
Tu t'en souviens de cette finale?
Elle triche là. Donc
que ça se joue à rien, que Valère Germain,
s'il met tricher, son... vas-y. Si.
Quel joueur aurait été meilleur avec des cheveux longs? Il y a un jeu de mots. Il aurait été meilleur avec des cheveux longs. Et joueur incroyable, de milieu de terrain.
Bah ça va, bah dis-lui
aussi. Mais quoi, je l'aime un peu. Il était formé à Châteauroux, je crois.
Deux.
Châteauroux?
Non, c'est pas Château.
3.
C'était Morgan Sanson. Sanson, les cheveux longs.
Oui, il était compliqué celui-là. Il était dur. Hein.
Là, c'est un point de loin. Donc 2-1.
Attention, qui que c'est-y? Quel international portugais se faisait souvent soulever par Ronaldo à l'entraînement?
Couteau?
Non.
Pas mal.
Il soulevait quoi, Ronaldo? À entraînement.
Fonte.
José Fonte, bonne réponse de
la Dugue, comme on l'appelle.
2-2. Gros quiz de Dugue, bravo.
Ouh. Ça va le golf, Dugue? Ça se passe bien?
Bah oui.
Ça va.
On m'a
ça
dit
va,
que t'étais pas mal. Hein. J'ai un ami à moi qui a golfé avec toi. Trop mal.
Mais tu nous racontes ta vie vraiment dans toutes les chroniques.
C'est dingue.
Il m'a dit, il est vachement sympa, Dugue. Comme. Sous-entendu. Je sais pas pourquoi. Qui se rappelle?
Encore?
Quelle ville? Ah, c'est pas une question de naissance, c'est qui se rappelle, c'est pas question d'arcade.
Ah, ça n'a rien à voir.
C'est pas aussi vieux que ça.
Ah, ok.
Quelle ville a vu 2 fois Liverpool gagner la Ligue des Champions? Quelle ville a vu 2 fois Liverpool?
Istanbul.
Alors, c'est pas Istanbul.
Moscou, Paris.
Madrid.
C'est une capitale.
Wembley, Londres, Madrid, Cardiff.
Rome, bonne réponse de Dugas. Bonne réponse de Christophe Dugarry qui est chaud.
3-2.
Chaud patate.
Balance bon. Des capitales, toi.
Attention, mais faut les connaître, il est marrant lui.
Il en connaît plein.
Il est marrant l'autre.
On l'a tué.
Oui, capitale.
Même.
Ouais.
Il est 18 en Géo.
Ouais.
Capitale 19. De la Roumanie.
19.
Roumanie, Jérôme.
Caraïbes. Bien joué.
Je t'ai avoué.
Rapide. Qui kawège ici? FC Bâle. Schalke Nulfir. FC Séville. FC Barcelona.
Rakitic.
Rakitic, bonne réponse, il est chaud, 3-3. Il est là.
Bravo, Jérôme, les 30 points
que
tu mets.
Que qui écoute ? Ils sont là, les auditeurs ? Attention, allô ?
Adrien,
on se réveille. Vous êtes là, vous êtes avec moi. Quel joueur français a perdu une finale de Coupe d'Europe contre un club français ?
C'est les auditeurs, là.
Oui, que les auditeurs. Papin, bonne réponse. Oh, joli.
C'est Nicolas ?
Non, c'est Adrien.
Bravo, Nicolas. Arrête toi, pourquoi? Attends, mais je te jure.
Avec 4-3 pour Jérôme.
Attention, question du Gary. Ah. Question du Gary. Oui.
On y va.
Question du Gary.
Elle va arriver, elle va
question
arriver.
Question du Gary.
Elle arrive de Bordeaux.
Pas
de
gueule, c'est le décage.
Bon, du gars, qu'est-ce que tu caches dans ton cerveau? Ouais, what do you hide into your brain? Oh, bro.
Du gars, tu te souviens, t'es allé en finale de Coupe d'Europe. Sublime. En 95-96, dans un parcours incroyable, vous avez fait l'Intertoto, j'en ai encore des frissons. Et vous allez contre le Bayern, oui, je m'en souviens. Contre le Bayern en finale, mais qui est votre sponsor maillot cette année-là ?
Mon sponsor maillot, Panzani.
Panzani,
ah oui.
Bonne réponse.
Bravo,
de Christophe Dugarry. Eh oui, il est là, Dugarry.
4 partout.
Eh ben ouais, ben t'avais qu'à être bordelais.
Puis je pense que c'est un super match.
Question double.
Hein, question. Ouais, 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 j'en savais rien.
Si, 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 le maillot. Je le vois encore, le maillot Panzani.
Maintenant qu'on te l'a dit, mais on l'a
question.
Question
double. Non, mais c'est...
J'avais suite du gars, mais ce soir, je vais le brûler.
Question double. Si lui qui répond à la question a le droit à une deuxième réponse. Citez-moi. Jean-Pierre Papin, vous savez qu'il a été meilleur buteur pendant 4 années d'affilée du championnat de France.
Ouais.
Même 5.
Mais t'en parles parce que Gasset a dit que le but d'hier, ça l'a fait
pas. Ah oui, c'est par rapport à Mumbagna. C'est l'ancien Mumbagna. Vous rappelez de JPP, c'est l'ancien Mumbagna. L'ancien Mumbagna était meilleur buteur, comme sera bon, Mumbagna,
vas-y.
De 88 à 92. Citez-moi un joueur qui a été une fois deuxième meilleur buteur de la Ligue.
Wea. Klinsmann. Non. Wedek.
Vous pouvez le dire, les autres. Hein.
Ouais, non pas.
Boli, deuxième meilleur buteur derrière Papin.
Boksic.
Vas-y, il y pense.
Boksic.
Non. Aussi qu'il arrive après.
Après, Ferreri.
Voleur.
Non, ils arrivent après, ces gens-là. Non. Il y a un joueur français qui a joué au PSG ensuite. Il est à Metz.
Patrice Garande.
Calderaro. Patrice Garande est arrivé en premier.
Putain. Wow, tu peux pas trouver Garande, toi ?
Patrice Garande. Et si tu donnes un deuxième, du gars, tu as bon.
Ça peut être la question ?
Un mec a été deuxième meilleur buteur. Mais t'as répondu une fois, donc tu dois connaître la question. Patrice Garande a été une fois deuxième meilleur buteur.
Calderaro, je viens de le donner.
Attention, question à deux points.
Bien joué, Duga.
Question à deux points.
T'as pas honte, toi.
Trop fort, Duga.
Ah bah oui, je vois trop fort. Bah oui, bah oui.
Louisa, elle a trop encouragé Duga, j'ai l'impression.
Elle est là, c'est la pop-up girl. Pour l'instant, tu peux répondre, t'as le droit.
Mais je les connais même pas, ces joueurs.
Et même un vieil. Rassigne-toi, gros.
Garande a entraîné Jérôme, quand même.
Ouais. C'est un grand entraîneur, Patrice Garande, quand même. T'as pas, tu te souviens pas à quand? Allez, question de Jiméco.
Ah.
C'est la question d'Éric Dzeko.
Mais il est fou, ce mec. Oui. Pio, donne-lui une gifle pour moi. Tu dis bien que c'est moi qui lui ai mis.
Et on peut tricher, mon vieil. Et pardi.
On me bat les couilles.
C'est le principe, Jérôme, tu peux tricher, là.
Non, je veux pas, moi.
Alors.
Dommage de le faire là sur une
question. Je suis pas Éric Dzeko.
D'accord. Vous allez chacun à votre tour me donner le nom d'un Portugais qu'il a joué en première division de la France.
Roy Barros.
Bonne réponse.
Paoleta.
Bonne réponse. Duga. Vite. Duga, une fois. Duga, deux fois. Duga.
Paulo Futre.
Ouf, c'était chaud. Paulo Futre, il a. Oui, exactement. Pas,
Vitinha.
C'est bon. Vitinha. À toi, Louisa.
Anthony Lopez.
C'est bon. Duga, vite.
Roy Barros.
Déjà dit. Aïe.
Par qui ?
J'ai entendu Ribéry. Hein. C'est Jérôme en premier.
Oui, c'est moi qui l'ai dit.
Cheka.
Ah, pardon.
Cheka ?
Cheka, ouais.
Ouais.
De Lille.
Bien ah sûr. Oui, Cheka de Lille, pardon. Oui, pardon, excuse-moi. Ah,
le portugais, là.
Oui, le portugais, Cheka. À toi, Louisa.
José Fonte.
José Fonte, c'est bon.
Chalana.
C'est bon. Louisa.
Ronny Lopez.
C'est bon.
Bastos.
C'est bon. Bastos, attends, il est portugais.
Bruno Bastos.
Non, c'est Bastos.
C'est Bastos. Bastos, c'est pas bon. Et si tu en dis un seul, arrête, Louisa, tu as deux points.
Bastos, il y a des fois il mettait un S. Michel. Des fois
il mettait un S. Gonzalo Ramos.
Bruno Bastos.
Mais non, tu confonds avec Simone Leblé. Allez.
Bruno Bastos n'est pas portugais.
On va faire les joueuses à moustache.
C'est fini, victoire de Nicolas qui remporte le quiz.
Roten contre le reste du monde sur RMC avec Lagrange Vacances. Mer, montagne, campagne, trouvez votre résidence 3 ou 4 étoiles pour les vacances.
Tout de suite, Génération After avec Nico Jamain et les drôles de dames comme tous les lundis. Salut Nico.
Salut Nico.
Salut Jean-Louis, salut Julien, salut Jérôme, salut Louisa, salut Christophe.
Mais tu connaissais Bruno Bastos.
Bruno Bastos, évidemment. Tu sais, parfois il y avait un S. Il me semble
qu'il a trompé deux, trois fois.
Je pense que Jérôme se souvient de ce moment-là.
Je crois pas.
Si, mais bon, c'est
bon, le Barça a-t-il raison de crier au scandale après la défaite face au Real dans le Classico? On va en parler avec Fred Hermel qui vient avec des éléments également. On va parler également du record d'invincibilité du Bayer Leverkusen, l'équipe qui s'arrache dans le temps additionnel encore une fois ce week-end, et puis aussi de United qualifié pour la finale de la Cup après une grosse frayeur. C'est les drôles de dames qui arrivent dans un instant, Jérôme.
Bah, amusez-vous bien, Nico. On se retrouve demain, nous. Merci encore une fois pour votre fidélité. On se retrouve demain pour Roten sans flamme. Ça s'arrête jamais. Tout au long de la semaine, de 18h à 20h, du lundi au vendredi. Demain, on est mardi. Grosse émission, vraiment. Il y aura des matchs. Il y aura de l'actu. Et il y aura de l'humour. Voilà. Bisous. À demain à partir de 18h.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.